tu
C'est
vois.
vrai qu'on ne s'est pas posé la question de la structuration avant de lancer la concertation.
Ouais.
Alors que la CGT se la pose et l'AFDI aussi.
Moi, je dirais qu'on se l'est posé, mais qu'on l'a évacué. C'est-à-dire qu'on
ne peut pas les structurer.
On s'est dit, non, on s'est dit, c'est pas, il ne faut pas faire une finalité. Enfin, la finalité n'est pas la structuration. Si elle vient, cette structuration vient naturellement parce qu'il y a un objet, et bien très bien. Mais il ne faut pas que ce soit, sinon ça va déformer complètement la démarche.
Il n'y a pas encore d'interlocuteur vraiment crédible, si je peux le dire ainsi, pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a pas de structure formelle pour dire que c'est OK, c'est nous, c'est lui qui nous représente. Il n'y a pas encore ça. Dans ce cas-là, on a intérêt à mettre en place cette personne.
On s'est posé ces questions-là. Est-ce qu'il faut se mettre comme objectif d'arriver à former, enfin de. Avoir créé, soutenu la création de tant de groupements, de tant de structures, etc. Et on a dit non. Parce que sinon, on va aboutir à des, comme on a vu quand même assez souvent, à des coquilles vides. L'objet, c'est pas ça. L'objet, c'est d'abord de rassembler, enfin, de faire que les gens échangent, etc. Et puis après, s'ils veulent, s'ils sentent qu'il y a un besoin pour porter telle ou telle chose, en fait, de se structurer, de s'organiser autrement qu'ils ne sont aujourd'hui, et ben là, ça a un sens. Et là, on peut accompagner ça.
D'accord.
Mais il ne faut pas le mettre comme objectif.
On ne va pas les obliger. C'est-à-dire qu'on ne va pas aujourd'hui dire, voilà, on va vous aider, vous allez monter une association. C'est juste une question d'approche, finalement. On y va petit à petit, et quand ils sont prêts, il faut passer le cap, et d'eux-mêmes, en fait. Il faut que ça vienne d'eux. C'est un peu ouais. Juste
et
ça.
Je pense que c'est ici, c'est extrêmement important, parce que donc, d'une part, il y avait des dérives aux pratiques passées de forcer
voilà.
Les gens à se grouper,
mm-hmm.
Que ce soit sous le régime Ratsirac. Et après, il y avait les projets, ça a été repris. Hein, donc, on force les gens à se grouper. Et donc, ça perd complètement de sa raison d'être. Parce que les gens, ils se disent, bon, je vais me grouper parce qu'ils veulent que je me groupe. Et puis après, je vais avoir de l'argent, et puis voilà, donc je vais leur faire plaisir. Mais je n'ai pas du tout envie de me grouper, en fait. Le fait de ne pas être formalisé ou structuré officiellement, quand il s'agit ensuite de dialoguer avec les pouvoirs publics, et bien ça va être. Quand il y a un enjeu vraiment pour eux, là, ils vont vite, très vite se rendre compte qu'il faut qu'ils se groupent et qu'ils soient formels et qu'ils soient forts. Et donc, c'est en fait de compte le moteur pour que la structure qui va émaner de ça, eh bien, on a plus de chances qu'elle soit forte et qu'elle dure.
La nécessité de formaliser sur des statuts. Nous, on n'était pas parti là-dessus au départ. Hein. Enfin, on n'était pas parti là-dessus, on n'était parti sur rien, on était ouvert sur tout. Mais. Je pense que, par exemple, les camarades de La Réunion étaient un peu. Sur une logique, on fait un réseau qui. Voilà, c'est un réseau souple. Mais bon, en même temps, finalement, quand on se pose des questions d'adhésion, qui en fait partie, qui en fait pas partie, on se rend compte que. Côté de FISEMA, par exemple, FISEMA avait tout de suite mis sur la table des projets de statut, d'une charte, d'un règlement intérieur.
C'est pas de chez les responsabilités.
C'était très, très formel, quoi, dans l'organisation.
Mais à juste titre, on a eu quelques difficultés de temps à autre sur les adhésions à choses et autres, sur la façon dont il fallait opérer, et on s'est référé au statut qui avait été discuté.
Par rapport aux autres regroupements qui sont plus structurés et plus formels, je dis bien formels puisqu'ils ont, ils avaient des statuts. Et ça ne leur a pas réussi, mais avec la CTM, il y a plutôt une convention qui, au lieu d'être une superstructure comme les organisations précédentes, les regroupements précédents, devient plus fonctionnel. La CTM regroupe plusieurs commissions. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de statut, mais il y a la convention. Il n'y a pas de bureau, mais il y a les commissions. Les membres travaillent dans les commissions. Il y avait la commission formation. Il y avait la commission sociale, économique et sociale. Ces commissions-là travaillaient et c'est ça qui a fait que la CTM subsistait par rapport aux structures précédentes.
Aujourd'hui, les eaux préfétières à Madagascar, donc c'est FIFATA qui vient de Ferte au départ. Fikritama et CPM qui viennent des mouvements confessionnels, le réseau SOU et Kulwaren qui vient de la coopération américaine. En gros, c'est ça, on parle de 5 OP fêtières. La structuration paysanne vient effectivement beaucoup des partenaires étrangers. Hein. C'est certain. Les structurations d'une OP pour améliorer ses techniques et pour défendre les intérêts des paysans, c'est des idées qui viennent de l'extérieur, ça.
C'est que maintenant, la politique nationale, c'est clair. Mais est-ce que vous avez déjà fait une petite descente au niveau de la région? C'est pas encore gagné, quoi. Au niveau national, c'est bien, donc on a les chartes, on a tout. Mais dès que tu compasses de la national régional, tout revient au casse départ. C'est pourquoi que on a réfléchi beaucoup avec les membres de l'USU sur cette descente au niveau de la base. Parce que c'est ça ce qui manque aux USU. On est coincé un peu au niveau national, c'est déjà bien. Mais maintenant, il faut descendre un peu de notre échelle en bas, au niveau régional, là où les OP régionales travaillent. Sinon, ça ne va pas. Ça devient théorique. Et les paysans ne aiment pas ça. Parce qu'ils ont payé des cotisations. Hein. Il ne faut pas oublier. Ils ont payé des cotisations au niveau des sous. Et quels sont les services rendus au niveau national et au niveau régional?
Avec le CGT, on a pu organiser une conférence dans 8 régions de Madagascar où il y a des tissus industriels et influence de beaucoup de travailleurs à Madagascar.
Mais c'est rare pour des occasions comme ça, même avec le PIT et la Fondation. Donc il y a vraiment une compréhension de la CGT, de notre problème de communication, de la couverture nationale de notre mouvement pour dynamiser donc la CTM. C'est la CGT qui est le premier à se rendre compte que vraiment il y a des efforts pour avoir un mouvement syndical fort et élargi, il faut aller dans les régions.
Dans certains pays, en plus le discours des élus politiques est celui-ci, c'est-à-dire on sait que vous existez, ce qu'ils disent aux unions, hein. On sait que vous existez, on sait que vous faites des actions localement, et il vous faudrait intégrer, entre guillemets, votre message politique, votre discours, hein, avec d'autres acteurs pour qu'on puisse aussi pouvoir vous répondre.
Aujourd'hui, les centres qui existent, c'est que on se considère d'abord comme des concurrents, mais d'un côté aussi, on se considère comme des alliés, quoi. Donc, on est vraiment entre ces deux extrémités-là, quoi.
Je pense qu'il y a une analyse qui est commune à toutes les organisations syndicales dans le monde, d'ailleurs, hein, de la faiblesse du mouvement syndical dès lors qu'elle n'est pas associée ou ne travaille pas avec ONG, associations et coopératives. Pour une partie du mouvement syndical malgache, et notamment en travers de la FISEMA, et toute cette analyse-là qui a été faite et qui a montré des limites. Le petit plus, ça a été l'apport d'organisations du Nord, qui aussi, avec cette volonté de travailler en commun, ont permis ces échanges, ces réunifications, au travers de séminaires, de projets communs, etc., des contrats d'aide et de développement, par exemple, sur des projets... il y a eu tout un travail où, effectivement, on a décloisonné la spécialisation du mouvement syndical, des ONG, etc., pour essayer d'avoir un travail et une réflexion en commun.
Globalement, il y a des incompréhensions. Donc, ils pensent que pour nous, nous sommes des perturbateurs, des revendicateurs et tout ça. Bon, on pense que vous êtes des travailleurs. Et eux, on ne sait pas exactement. Moi-même, je ne sais pas exactement quelle est donc vraiment la raison d'être de certaines organisations de la société civile qui ne fait que être bien vu par l'administration ou les partenaires internationaux pour avoir des sous, pour financer ceci, cela. Mais moi, je ne me rappelle pas qu'il y a des invitations au nom de la CTM pour des questions de coopération régionale au niveau des APE. Plutôt, c'est la CTM ou bien une opération de la CTM qui ont invité les autres membres de la société civile.
À Avdiy, on peut être aussi un peu comme des portes ou des clés, quoi. Des clés pour des portes. C'est difficile pour un paysan d'aller directement voir le chef de région, voir le DRDR. Si nous, on peut être la clé qui lui permet d'ouvrir cette porte-là, après, il peut aussi plus facilement aller dans le bureau de la région et plus facilement s'exprimer. Quand il est habitué à rencontrer l'homme, il a quand même plus de facilité à s'exprimer sur une table ronde devant cet homme-là, parce qu'il l'aura déjà vu plusieurs fois et qu'il n'a pas en face le chef de région, mais un homme qui certes représente l'État malgache, mais il connaît déjà l'homme. Donc ça, nous, on peut apporter ça. Mais après, on a aussi une carte de visite. Parce que quand on est étranger, c'est plus facile de rentrer dans le bureau du chef de région que quand on est paysan. Non. Je m'excuse de dire ça, hein. Tu me dis si je me trompe ou pas. Mais souvent, les paysans, ils nous ont dit, nous, on a besoin du VASA. C'est plus facile si on va avec toi dans le bureau du chef de région. C'est plus facile si on a une carte Avdiy d'aller dans le bureau du chef de région que si on est seul. Après, une fois que le lien est fait, c'est bon. Hein. Après, au niveau national, moi, je ne sais pas trop ce qui a vraiment déclenché le fait que les OP soient de plus en plus écoutés, invités, et qu'on considérés, en fait, par le ministère. Je pense que, quand même, l'AFDI a contribué de deux façons. Hein. D'une part, en appuyant quand même depuis une longue date, en appuyant techniquement le réseau SOU. Ici, il y a toute une équipe qui aide le réseau SOU à tirer des conclusions, à formuler les propositions. Donc il y a quand même des propositions qui sont, je veux dire, pertinentes, parce que c'est parce qu'on a aidé les paysans à mieux le formuler. Donc là, quand même, on a un rôle par rapport à ça. Et aussi parce que, en ayant la gestion des projets CSA et FRDA, nous aussi, on se fait connaître du ministère. Et en se faisant connaître du ministère, c'est plus facile pour nous de faire connaître nos partenaires locaux ici.
On s'appuie sur un crédit en fait, qu'a le site. Hein. C'est dans le sens où le site, c'est un lieu d'expression et d'échange. Le siège du site au niveau national, qui est... un lieu neutre où tout le monde peut se rencontrer et débattre. Et le site, je pense, est assez bien reconnu comme étant un acteur capable de faire de la médiation neutre, étant capable de se renseigner, de bien comprendre les situations, les enjeux, les intérêts de chacun, sans se positionner pour l'un ou pour l'autre, ou contre l'un ou contre l'autre. C'est-à-dire que le site est assez, les antennes du site et le site est assez gros, on va dire, pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics. Et en même temps, les pouvoirs publics savent qu'ils sont pas menacés parce qu'ils sont interpellés par le site. Ils sont pas mis en accusation. Ils sont simplement le site peut les aider à rentrer en contact aussi avec un public qui n'apprend pas forcément facilement. Enfin, moi, je suis persuadé que le fait que la directrice soit française facilite aussi l'image de neutralité du site. Ça, pour moi, c'est très clair sur la scène, parce que c'est à la fois, donc c'est quelqu'un qui a à la fois force de responsabilité qui en même temps n'est pas impliqué dans les réseaux sociaux locaux, qui n'a pas d'historique, qui n'est pas issu d'une famille.
On a pu organiser des rencontres, plusieurs rencontres aux autorités compétentes par l'intermédiaire de l'opération du site. Parce que individuellement, même si je connais la TSB ou bien le ministère, je crois que c'est un peu très difficile de leur faire connaître ou d'agir seul, mais avec le site qui était une institution, je crois que c'est une... Donc ça a facilité toutes nos démarches, toutes nos interventions partout, surtout au niveau de l'administration. Ça a facilité aussi la médiatisation. On avait organisé, même en deux jours, en une journée, une information avec les médias qui s'étaient réunis à la chambre de commerce d'Ambar pour donner, pour avoir les informations pour la médiatisation de Varrois, ce qu'il faut faire, de ce qui se présente.
Le premier facilitateur, ce sont les RMAD, c'est-à-dire les parents, le gouvernement, les ministères de tutelle, en principe. Et je remercie le site parce que, en principe, c'est le site qui remplace ce rôle quelques fois.
C'est vrai, hein.
En principe, tant qu'il devrait avoir le gouvernement qui devrait être le facilitateur, qui devrait faire parler les gens et les mettre autour d'une table, je pense qu'il appartient au facilitateur de faire ça, parce que les apiculteurs n'ont pas le temps, nous apiculteurs n'avons pas le temps de faire réunir les gens tout le temps. Il y a le rôle des parents avec le site, et le site en tant qu'institution, dans ce... Je dirais, organigramme, je dirais que le site est une institution technique, plutôt partenaire technique, alors qu'il joue le rôle des parents. Ça, c'est pas bon.
Le dialogue ne s'organise pas à Madagascar de la même façon que on l'organise ici.
C'est ouais.
Effectivement, la prise de parole lors d'assemblées publiques, de réunions publiques, etc., elle est d'habitude beaucoup plus limitée que, je sais pas, ça peut être le cas ici, quoi. Par contre, il y a d'autres façons. Enfin, il y a d'autres façons de faire remonter et de discuter à travers qui c'est plus dans des relations interpersonnelles, enfin des dialogues hein, entre, de façon à faire s'exprimer les différents points de vue, etc. Donc, en ce sens, après, c'est vrai que c'est plus difficile pour moi. Enfin, quand on parle de groupement, etc., c'est avoir des leaders de groupement qui vont. C'est effectivement plus difficile.
Vous parlez du dialogue, donc il n'y a pas vraiment de dialogue franc, mais des dialogues superficiels.
Ouais.
Bon, c'est
sous pression,
c'est pour avoir des sous.
Et aussi des questions de génération plus dans l'organisation. Parce que Razak était beaucoup formaté par un syndicalisme historiquement de contestation, de lutte, ce qui est moins le cas de la nouvelle génération d'Afizema. On a des modèles de relations sociales avec le gouvernement, avec les employeurs, etc., qui sont différentes dans ces pays-là.
On est à Madagascar, on n'est pas en France. Et donc je parle de petites avancées qui sont écrire une lettre sur des mots ou des choses comme ça. Mais on n'est pas dans un mouvement syndical fort qui va aller au ministère en tapant du poing sur la table en disant c'est une honte d'exproprier nos paysans ou des prises de position très fortes comme ça. On en est encore très très loin.
Ouais.
L'histoire du syndicalisme agricole à Madagascar est très récente c'est pas dans les mœurs d'aller contester l'administration.
Le syndicalisme à Madagascar, c'est un autre sujet encore mal compris, hein. Même jusqu'à maintenant, peut-être que ce soit déjà parlé de ça. Même les membres de l'intérieur n'avaient pas bien compris cette mission de sous sur le syndicalisme. Comment procéder le syndicalisme à Madagascar? Parce qu'ici, on a peur de l'État. On a peur, quoi. Et les paysans qui voudraient faire de la grève, est-ce que c'est possible ou non? Mais maintenant, l'approche des sous, c'est beaucoup plus difficile. À mon avis, l'intérêt d'Afti là-dedans, c'est encore ce renforcement de capacité des paysans à être des partenaires de l'État, acteurs, mais plus de bénéficiaires. Et puis qui revendiquent et défendre leurs intérêts. Parce qu'avant, ça n'a jamais existé.
Le FRDA, c'est les OP gèrent un fonds avec le chef de région. Pour les OP, c'était vraiment un cap nouveau à passer qui était difficile. Parce que d'être autour d'une table, déjà ça avait été difficile de les mettre autour d'une table, parce qu'il y avait, les OP ne se connaissaient pas. Comment est-ce qu'on va partager là tout le fond, hein. Mais alors après, il fallait aussi qu'elles puissent s'exprimer devant le chef de région. Comment les paysans, au début, c'était quand même l'angoisse, quoi. De se retrouver à dire, il va falloir qu'on gère un fond avec le chef de région, il va falloir qu'on gère... avec le chef de district, ça c'était au niveau des CSA, comment est-ce qu'on va pouvoir parler devant ces gens-là? Comment est-ce qu'on va défendre notre idée?
La discussion era, ¿es la autoridad la que tiene que orientar y coordinar todo eso? ¿O es la población civil también que tiene que construir y participar de la construcción de eso y no simplemente un papá cierto, un papa gobierno que le está diciendo todo y haciendo todo, sino que precisamente en la medida en que hay armonía, volvemos al tema de la familia y un Estado, o un gobierno, en este caso la autoridad propia, pues esas dos sinergias es lo que precisamente tiene que hacer avanzar ese pueblo, y es un poco como la propuesta que se plantea como fondo, o sea, unas familias que respetan el cabildo, que se coordinan con él, pero que no están esperando que el cabildo les diga todo lo que hay que hacer, sino que ellos se juntan para resolver sus problemas prácticos, y ese es el reto, y ese es el reto que aceptó también Andy.
Dice que las incidencias que hacen las organizaciones a través de las familias, el mayor porcentaje y un pequeño porcentaje de los directivos. Entonces, por ejemplo, el alcalde actual es parte del grupo. Hace parte del grupo de la que llamamos la ER. Entonces, él de allí dinamiza también para los otros grupos también. Algunos gobernadores también han pasado primero por la organización para todos los resguardos y han hecho incidencias allá. Entonces, algo que digiere de las otras propuestas organizativas. Bueno, para un ejemplo último, el gobernador de Transparte por acá de Caldono tenía un grupo de trabajo, un grupo que estaban trabajando en orgánico, a través de un proyecto. El proyecto, pues, creo que era 3 años. Entonces ya el mismo gobernador orientó a que hay otras propuestas organizativas para comercializar café, ustedes, ¿no? Y entre ellos, pues, recomendó a Pando Páez, el grupo, pues, escogió aquí a la organización, ¿no? Entonces, esa es una manera de ir construyendo, ir dando visibilidad a los...